Bien, si vous voulez bien, nous allons commencer. D'abord, j'ai deux annonces à vous faire. Dans le cadre de mon séminaire, le mardi 17 mai, donc dans 15 jours, non pas à 3h30, mais à 4h, Madame Suchandra Ghosh, qui est professeure à l'Université de Calcutta, donnera une conférence en anglais sur le site bouddhique de Mainamati au Bangladesh. Ça aura lieu ici, dans cette même salle. Pardon ? Il n'y aura pas de séminaire. Pour une fois, je fais comme mes collègues, je fais parler les gens à ma place. Voilà. Mais enfin, j'interviendrai quand même, pour la présenter au moins. Donc, un certain nombre d'entre vous, ceux qui sont sur les listes d'invitations, recevront les invitations par la poste. J'en ai quelques autres ici pour ceux qui ne peuvent pas noter sur leur agenda. D'autre part, moi-même, jeudi, je fais une conférence sur les bronzes anciens du Cachemire au musée Cernucci dans le cadre de la Séchac. Mais ça, c'est réservé aux adhérents de la Séchac qui, d'ailleurs, ont le privilège de, non seulement de m'écouter jeudi prochain, mais également d'écouter une série de conférences organisées tous les mois par notre collègue Anne Vergatti. Ça devient compliqué, la technique. Bien. Avant les vacances, je vous ai parlé des flux de population qui étaient arrivés au Gandhara dans les siècles précédant les débuts de l'ère chrétienne et dans le 1er et le 2e siècle. Et évidemment, ces populations sont arrivées avec des traits ethniques que nous connaissons mal, mais également avec leur culture. Ceux que nous appelons les Grecs sont probablement certains des Grecs de Grèce, mais beaucoup des Grecs ou des Hellénisés d'Asie occidentale. Ils arrivent avec leur culture grecque, avec des livres grecs qu'ils connaissent, et apparemment des dieux grecs, ceux que l'on voit sur leur monnaie, en tout cas la technique des monnaies et la technique telle qu'on la voit à Iranoum, qui n'est pas le Gandhara, mais c'est le seul témoin que nous ayons, sont des techniques tout à fait grecques et qui sont au courant des modes grecques au bout de 10 ou 15 années ou 20 années. Ceux qui ont précédé les Grecs, c'est-à-dire les Mao, ceux qui suivent Alexandre et qui précèdent les Grecs, c'est-à-dire les Mauryas, ou en tout cas leurs gouverneurs, sont arrivés avec leur culture propre, qui était d'une part une culture religieuse hindoue, védique, puisque nous reviendrons là-dessus, et d'autre part une culture bouddhique quand ils étaient bouddhiques, mais cette culture bouddhique était probablement tout à fait orale à ce moment-là, puisque les textes bouddhiques n'ont commencé à être fixés par écrit qu'au 1er siècle avant notre ère. Sur la culture des couchants, nous ne connaissons rien. Nous savons qu'ils sont restés un siècle en Bactriane, nous savons qu'ils ont adopté un certain nombre de modes grecs. Nous connaissons un peu leur religion dont je reparlerai, mais autrement, tout ce que l'on peut dire, c'est qu'ils étaient extrêmement attachés à leur image de guerriers et de cavaliers nomades. Et on pourrait continuer ainsi. Les populations qui sont arrivées au Gandhara y ont formé une sorte de melting pot. Il n'y a aucune raison de supposer qu'ils aient perdu leur tradition en ayant passé la passe de Michni. Ils les ont gardées et manifestement, ils ont assimilé celles qui se trouvaient déjà. Donc, c'est une région de culture extrêmement mêlée. La culture des anciens étant essentiellement religieuse, il faut dire quelques mots, et c'est à cela que nous allons consacrer au moins cette heure et peut-être l'heure suivante, il faut dire quelques mots de leur religion. Alors, il y a une façon très simpliste de faire cela. On peut faire petit a, les Maoria, qui venaient de l'Inde gangétique. Comme je vous l'ai dit, les gouverneurs étaient peut-être bouddhistes et avaient donc une culture bouddhiste, mais la culture qu'ils avaient était essentiellement la culture hindoue de l'époque, 3e siècle avant notre ère, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'ils révéraient les dieux hindous, c'est-à-dire déjà, on reviendra là-dessus, Vishnu et Shiva qui apparaissent. Ils avaient peut-être encore la culture et la religion des textes védiques. Et en tout cas, ils étaient très probablement au courant de ce qu'il y avait dans les Upanishads. Mais vous savez qu'être hindou, ça se définit aussi par un certain nombre de rites. Et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure de l'observant de ces rites. Et puis, à côté des Grecs, des hindous, on met les bouddhistes. Et les bouddhistes ont fait une distinction entre le Hinayana, le bouddhisme ancien, et le Mahayana, qui est le bouddhisme un peu plus récent, dont datent maintenant les débuts du 1er siècle de notre ère. Je reviendrai sur le bouddhisme, j'y consacrerai toute une leçon, car c'est là que depuis 25 ans, il y a eu les progrès les plus importants, au point que tout ce qu'on trouve dans les manuels, qui pourtant étaient bien faits, est complètement dépassé. Alors ça, c'est la vue simpliste, petit a les Grecs, petit b les Hindous, petit b c les Bouddhistes, comme si c'était des gens qui ne s'étaient jamais mêlés, et comme si on ne pouvait pas être grec et hindou, ou bouddhiste et grec. Dans la réalité des choses, les choses sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus nuancées. Et on ne peut pas faire des coupures aussi nettes que celles que nous faisons en Europe maintenant entre catholiques et protestants ou entre juifs et musulmans. Il n'y a pas de frontières aussi abruptes. Si l'on parle des religions qui sont représentées au Gandhara, disons, aux alentours de notre ère, il faut d'abord commencer par parler des religions que nous ne connaissons pas. Car ce n'est pas parce que nous n'avons pas de documents que nous devons supposer leur inexistence. Je m'explique. Avant l'arrivée des Achéménides, le Gandhara était peuplé. Il y avait probablement des cultes, il y avait certainement des cultes, il y avait certainement des prêtres. On peut penser qu'ils étaient, disons, en employant un mot qui n'a pas beaucoup de sens, mais enfin qui donne une idée, qu'ils étaient dans la tradition des Indo-Aryens védiques, puisqu'on se passe au 5e siècle avant notre ère, les Upanishads ne commencent seulement à être rédigés, et le bouddhisme n'existe quasiment pas. Ceci signifie qu'avant, si on prend cette position, cela signifie qu'avant l'arrivée des Indo-Aryens, il n'y avait personne au Gandhara. Or, il y avait des gens dont on ne sait rien puisqu'on n'a pas retrouvé leurs traces. On a retrouvé des tombes dans le Swat, c'est-à-dire pas très loin. Ces tombes sont évidemment attribuées par les archéologues aux Indo-Aryens parce qu'on en cherche les traces et que les autres ont... Mais il n'y a aucune raison de penser que si elles sont indo-ariennes, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y ait pas eu des populations à côté qui continuaient des religions ancestrales, en particulier les types de religions que pouvaient avoir, le type de croyances que pouvaient avoir les gens de la civilisation de l'Indus, puisque ces régions étaient en contact avec la civilisation de l'Indus. Nous avons aussi des traces très haut dans la montagne, dans la région de Gilgit et au Hunza, et plus tard dans le Swat, de ce qu'on appelle le chamanisme, c'est-à-dire des cultes où vous avez des devins inspirés qui arrivent à mettre le monde des vivants en contact avec le monde des dieux. Le chamanisme, c'est la tarte à la crème des ethnographes. Il y a toutes les définitions possibles, mais il est clair que nous avons en pays Hunza des croyances aux fées, des croyances dans la renaissance des animaux et des croyances dans les visions chamaniques, c'est-à-dire d'un devin qui se met en état de transe et se met en contact avec les divinités qui sont en général des fées, puisque nous sommes en milieu musulman maintenant, des fées qui indiquent quelles sont les raisons d'un malheur ou qui amènent la guérison. Ceci, évidemment, peut venir d'Asie centrale, mais ça peut être également très ancien. Et ce n'est pas parce que c'est haut dans la montagne, tout à fait dans la région de Gilgit et de Hunza, que ça n'a pas touché le Gandhara, parce que l'on sait par l'analyse des langues que les populations qui vivent maintenant dans la vallée de Gilgit et dans la vallée de Hunza sont des populations qui ont été refoulées de la plaine indienne, refoulées du Gandhara, refoulées du Punjab, d'abord par les Indo-Aryens, puis par les Pashtuns. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y ait pas eu ce genre de culte chamanique dans le Gandhara. Évidemment, nous n'en avons aucune trace, mais on ne peut l'exclure. On peut d'autant moins l'exclure que les populations qui ont envahi le Gandhara au 1er siècle avant notre ère et au 1er siècle après notre ère, en tout cas une partie de ces populations, étaient originaires d'Asie centrale. Ce sont les Saka et les Kushans. Et il est très probable, bien que nous n'en ayons aucune trace, que ces populations aussi avaient des cultes de ce type, peut-être différents des cultes que l'on voit ou de ce qui est transformé en folklore désormais dans les vallées où l'on parle le Burushaski ou le China, mais qui sont de même type. De ceci, nous n'avons aucune trace, mais nous avons toute raison de supposer que cela existait. À côté de cela, il y a le mazdéisme. J'emploie le terme mazdéisme, comme mon collègue Kellens, pour désigner des religions qui se séparent de la religion védique par le fait que le dieu suprême n'est pas Indra ou n'est pas Mitra ou n'est pas Varuna, mais Ahura Mazda. Seulement, il se trouve qu'il y a plusieurs variétés de mazdéisme. L'une de ces variétés, qui est devenue la variété officielle, c'est le mazdéisme des Achéménides, de Darius, qui a été ensuite repris par les Sassanides et qui a abouti à l'époque moderne au culte zoroastrien qui subsiste un peu en Iran dans la région de Yazd et qui subsiste également en Inde dans la région de Bombay et au Gujarat. Mais à côté de cela, il y a eu d'autres variantes de mazdéisme que l'on devine parce que les coutumes ne sont pas les mêmes, en particulier la façon d'enterrer les morts et les listes de dieux. On sait qu'il y a eu un mazdéisme sogdien, en Sogdiane, assez différent du mazdéisme achéménide, et il y a eu un mazdéisme bactrien que les Grecs ont rencontré et qui n'était pas tout à fait, en tout cas pour les rites funéraires, celui des achéménides. Et l'on verra aussi tout à l'heure, ou il n'y a qu'à voir maintenant, qu'il y a un mazdéisme couchant. Nous savons par l'inscription de Rabatak quels étaient les dieux qui protégeaient Kanishka. L'inscription de Rabatak est une inscription en bactrien qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, en 1993, dans le nord de l'Afghanistan, et qui a été déchiffré de façon remarquable par le grand spécialiste du bactrien, en fait le seul spécialiste au monde du bactrien, M. Nicolas Sims-Williams, et publié dans cette revue qui n'existe plus, Silk Road Art and Archaeology. Ça a donné lieu à beaucoup de littérature par la suite, y compris un long article de moi, mais pour l'essentiel, le sens est assuré. Une de ces phrases dont le sens est à peu près assuré est celle-ci, c'est que Kanishka a donné l'ordre à un de ses hauts dignitaires, Shafar le Karalhang, de faire littéralement une maison des dieux, un Bangolando, pour les dieux qui ont à leur tête Umma. On ne sait pas très bien qui est Umma, mais en tout cas, ça n'est pas Ahura Mazda. Et ces dieux sont nommés. Il y a Nana, qui est une déesse d'Asie occidentale, Umma qui réapparaît, Ahurmuzd qui est manifestement Ahura Mazda, Mazdoano qui est traduit par une épithète de gracieux, mais il y a une monnaie Kushan qui donne ce nom à un dieu, Sroshard qui est un nom mazdéen, Narasa qui est également un nom mazdéen, et Mir, qui est Mitra. Et en plus, dans ce sanctuaire qui n'est pas un sanctuaire du feu, qui était probablement un sanctuaire comme le sanctuaire de Surkotal, Kanishka a fait faire des images des dieux, alors que les Zoroastriens ne font pas d'images de leurs dieux. Et en plus des images des dieux, il a fait faire des images de ses ancêtres, qui manifestement étaient plus ou moins divinisés. Il y a un culte des ancêtres. Donc deux choses qui n'ont strictement rien à voir avec le zoroastrisme officiel, mais qui sont quand même mazdéennes, parce que la liste des dieux est la liste des dieux iraniens qu'on retrouve dans les yashts de l'Avesta, pas dans l'ordre où ils se trouvent dans les yashts de l'Avesta, mais ce sont les mêmes dieux, et surtout, ils ne sont pas indiens. Il n'y a pas de raison de penser que les couchants venant avec eux, arrivant au Gandhara et même plus loin au Punjab, aient abandonné une croyance que Kanishka affiche à ce point-là et qu'il traduit en essaimant la Bactriane et peut-être l'Inde de sanctuaires que les Bactriens appellent des Bagolango et les Indiens des Devakula, des maisons des dieux, où justement partout il y a les images de ses ancêtres. Et l'on a retrouvé les traces d'un de ces sanctuaires avec les statues de ses ancêtres à Mathura. Vous pouvez voir dans le musée de Mathura la statue de Vimakathises peut-être, en tout cas celle de Kanishka, qui a été probablement dressée par son successeur Rubishka. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que le dernier témoignage que nous ayons sur ces cultes zoroastriens au Gandhara est un témoignage un peu plus tardif, publié par mon collègue de Berlin, Harry Falk. C'est une inscription de Kashmir Smats. Kashmir Smats est un site du Gandhara, mais juste au pied des montagnes, juste au pied de la limite de montagne qui sépare le Swat et le Bunner du Gandhara. Et c'est une énorme grotte connue depuis longtemps qui, bien qu'elle ait été connue, bien qu'elle ait livré des sculptures bouddhiques, Fouché en parle, les Japonais y ont fait une expédition et malgré cela, apparemment, elle n'avait jamais été explorée. Or, depuis une dizaine d'années, le site a livré des dizaines de milliers de monnaies, beaucoup d'inscriptions, beaucoup de sceaux. Et l'une de ces inscriptions donne le nom du lieu comme étant Horamaisa Nagare, qui se prononçait Horamaisa Nagare, dans la ville de Ahura Mazda. Évidemment, on peut toujours se demander si Horamaisa, c'est Ahura Mazda, mais il y a toute chance en tout cas que ce soit la ville d'Ahura Mazda. C'est un nom très, très bizarre. En tout cas, il existe, il est dans une inscription, la lecture est parfaitement claire et c'est une inscription du 6e ou du 7e siècle. Donc vous voyez que des cultes mazdéens, c'est-à-dire iraniens, il y en a eu plusieurs variétés, entre le culte mazdéen des fonctionnaires achéménides, plus exactement zoroastriens, des fonctionnaires achéménides s'il y en avait, jusqu'au culte mazdéen des Bactriens qui accompagnaient les Grecs ou des Kouchans. Or, ces cultes n'ont laissé strictement aucune trace, puisque les cultes mazdéens proprement dit requièrent simplement un autel du feu qui peut disparaître très rapidement, et les grands temples que Kanishka aurait construit, on n'en a pas trouvé trace au Gandhara. On n'en a trouvé qu'un seul en Inde, mais il ne faut pas s'étonner. Le premier temple qui a été découvert, qui s'appelait un Bangolango, c'est celui de Surkotal. Il a été découvert en 1952. Et la publication doit être des années de 70. Ce sont des choses énormes. Hein. Le temple de Surkotal, c'est une colline entaillée sur 70 mètres de haut, avec des terrasses de 70 mètres de large, un énorme escalier et un temple qui faisait probablement plus de 15 mètres de haut et qui était entouré d'une enceinte fortifiée. Alors, les Grecs, nous ne savons rien, ou presque rien, mais ce que nous savons, c'est que lorsqu'ils étaient en Bactriane, ils frappaient des monnaies avec des dieux tout à fait grecs, en particulier des représentations d'Héraclès, des représentations de Zeus, et que certaines de ces représentations se retrouvent sur les monnaies indo-grecques, c'est-à-dire les monnaies frappées par les Grecs de l'Inde. Elles sont nettement moins claires, mais enfin, elles existent. Et par exemple, Ménandre, le grand roi grec de l'Inde, Ménandre, son type favori de déesse, c'est Athéna. C'est une Athéna Alkis, tout à fait semblable à celle que l'on peut voir sur certaines monnaies d'Athènes. On peut donc supposer que les Grecs ont amené également en Inde, non seulement leur monétaire, mais un certain nombre de bâtiments et de pratiques qui étaient essentielles à la vie grecque, en particulier une palestre pour d'enseignement et pour la gymnastique et des temples. On n'en a pas retrouvé. Le seul bâtiment que l'on ait considéré comme grec est le temple de Jandial à Taxila, qui a fait couler également beaucoup d'encre, qui est un temple qui était presque rasé, qu'on a trouvé presque rasé, mais qui a sur le devant des pilastres d'antes et avec de superbes bases de type attique. Mais le plan n'a absolument rien d'un temple grec. Et les suppositions sont allées bon train. En particulier, on a essayé d'en faire un temple du feu, ce qui ne va pas de soi et qui n'est probablement pas vrai. C'est en tout cas un temple à étages, et les parallèles les plus proches probablement sont à chercher en Asie mineure. Mais la fouille a été faite dans des conditions telles que la restitution des temples est très difficile. Marc Lebert, qui était l'architecte de la délégation archéologique française en Afghanistan, en avait fait une restitution. Quand je lui ai demandé sur quoi ça s'appuyait, je n'ai pas eu de réponse, et donc la restitution n'a jamais été publiée. Je la publierai peut-être dans mes cartons. Dans un jour, ça m'étonnerait quand même à l'âge où j'ai que je publie encore des choses de Lebert. Mais c'est le problème. On peut avoir une restitution, mais si on ne sait pas sur quelle base elle s'applique, à part les sentiments et la technique architecturale telle que pouvait l'avoir Marc Lebert ou telle que peuvent l'avoir ceux qui s'amusent à ce genre d'exercice maintenant, ça ne sert pas à grand-chose. Tout ceci est de l'imagination. Cette imagination a beaucoup joué parce que les archéologues qui cherchaient à identifier certaines parties de Taxila croyaient en la véracité du récit d'Apollonios de Tyane, qui est un joli conte, comme je l'avais démontré, comme Paul Bernard l'a démontré. Mais quand on n'a pas de documents, il faut vous mettre à la place des historiens, en tout cas de certains d'entre eux, et on fait feu de tout bois, et on prend même des documents ultra douteux. Alors donc, si vous regardez l'énorme littérature consacrée au temple de Jandial, vous verrez que c'est celui qu'Apollonios de Tyane a rencontré en allant à Taxila, alors qu'il est tout à fait sûr que Apollonios de Tyane n'y a jamais mis les pieds. Et malgré le long article de Paul Bernard, je crains que dans 20 ou 30 ans, un de nos collègues encore ne ressorte Apollonios de Tyane. C'est très très difficile à faire disparaître de la littérature ce genre de fantasmes. Il faut appeler ça des fantasmes. Ceci dit, on se tromperait en croyant que les Grecs sont restés Grecs, absolument Grecs, ne parlant grec entre eux, ne s'intéressant pas à la culture locale et ne s'intéressant pas aux cultes locaux. D'abord, c'est contraire à tout ce que l'on sait des Grecs. Les Grecs ont assimilé tous les dieux non grecs qu'ils ont rencontrés au cours de leur expansion, d'innombrables dieux locaux d'Asie mineure et tous les dieux iraniens. On le sait par exemple par les inscriptions de Commagène. Il suffit de leur donner un nom grec et les dieux sont assimilés. C'est ce qu'on pourrait appeler l'inclusivisme grec, bien que ce mot soit plutôt appliqué aux religions hindoues, mais les Grecs étaient tout aussi inclusivistes que les hindous, c'est-à-dire qu'ils assimilaient tous les cultes qu'ils rencontraient. Et l'on a des exemples de cela. Non seulement le souvenir légendaire qu'ont gardé les bouddhistes du roi Ménandre, puisque l'un des ouvrages très fréquentés des bouddhistes anciens s'appelle Les questions de Milinda, Les questions de Ménandre. Il n'est conservé qu'en pali et en traduction chinoise, mais on sait que la version de base est une version panjabi ou gandharienne. Et même si on ne croit pas beaucoup aux rencontres entre ce roi indo-grec Ménandre et des sages bouddhistes qui l'auraient converti au bouddhisme, il est tout à fait vraisemblable que le livre sort du souvenir de l'intérêt que le roi Ménandre avait pour les religions qui n'étaient pas la sienne et donc aux questions qu'il posait aux religieux. Ça a été assez loin, puisque dans le peu d'inscriptions karoshti que nous avons, du Gandhara ou même de Taxila, nous en avons au moins trois ou quatre où des gens qui portent des noms grecs comme Théodoros ou Héliophilos sont en fait des dédicaces bouddhistes. Nous avons des témoignages certains que des Grecs, je ne dirais pas se sont convertis au bouddhisme, mais en tout cas ont fait des dons au sanctuaire bouddhiste. Et beaucoup plus au sud, on a l'inscription célèbre d'un dénommé Héliodoros, qui était l'ambassadeur du roi Antialkidas de Taxila et qui avait été envoyé par lui à Vidisha, l'actuel Besnagar, tout à côté de Sanchi, pour ceux qui veulent visualiser cela. Et cet Héliodoros donne à Vidisha, sur un endroit au bord de la baie de Foix, une colonne sur laquelle se trouvait un Garuda, c'est-à-dire un oiseau de proie dédié à Vishnu, et il se déclare dans l'inscription Bhagavata, fervent de Vishnu, ce qui probablement ne l'empêchait pas aussi d'être, de rendre un culte à Hélios, si on en juge d'après son nom. Ceci est important, vous le savez, parce que je pense qu'on y arrivera avant la fin de l'année, mais ce sont des artisans grecs ou méditerranéens qui sont à l'origine de l'art bouddhique. Et ce type d'influence croisée de Grecs qui sont à la fois bouddhistes et grecs ou hindous et grecs a dû beaucoup jouer. Les hindous, de même, les choses ne sont pas simples. Parce que quand vous regardez les manuels sur les religions indiennes, qui sont par exemple le manuel français l'Inde classique rédigé par Renou et Filiosa, vous avez l'impression que la religion proprement indienne se découpe en tranches. Il y a d'abord la religion védique, et puis ensuite il y a la religion brahmanique, et puis ensuite il y a la religion hindoue. Les choses ne sont pas si simples, puisque par exemple, au IVe siècle de notre ère, les Guptas vont revenir au rite védique qui n'était plus suivi depuis des siècles apparemment. Et que maintenant, au XXe siècle, d'ailleurs, un certain nombre de brahmanes indiens ont trouvé le filon de refaire des rites védiques, soit pour les Indiens, soit pour les étrangers. Il y a toujours mélange. Quand vous avez des religions, vous ne pouvez pas les découper en tranches, comme si les tranches ne se mêlaient pas. Quand les curés dans certaines régions font le tour des champs pour les bénir pour les protéger de la sécheresse, ce n'est pas exactement le catholicisme de Thérèse d'Avila, ni même celui de Jean-Paul II, je suppose. mais ça existe quand même. Et il y a toujours des exorcistes dans tous les diocèses. Donc les choses sont toujours très mêlées. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a de fortes chances que le Gandhara n'est pas du tout échappé aux évolutions des religions proprement indo-ariennes, c'est-à-dire que on y est fait des sacrifices védiques, qu'ensuite un certain nombre de gens se soient livrés aux mêmes spéculations que ceux que l'on trouve dans les Upanishads. Nous avons des témoignages sur lesquels je reviendrai sur l'exécution des rites personnels védiques, tous ces rites qui accompagnent la croissance d'un individu, son mariage, son décès. De ceci, tout ceci, nous le supposons simplement. La seule chose que nous savons, c'est à la frontière du Gandhara et du Punjab, à Oundh, c'est-à-dire sur le bord de la rivière Indus, a vécu, selon la tradition, le grand grammairien indien Panini, qui bien évidemment était un brahmane et était hindou. La date n'est pas bien sûre. 6e siècle, il serait certainement encore un hindouisant de type védique. 4e siècle, un peu moins. On ne peut pas trouver de temple, parce qu'à l'époque, les Indiens ne bâtissaient pas de temple. Les seules traces de culte qu'il pouvait y avoir étaient les aires sacrificielles. Les aires sacrificielles, une fois la cérémonie terminée, il n'en reste rien. Il reste un peu de cendre et des trous de poteaux. Et quant aux spéculations sur de type upanishadique, tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il semble bien que Alexandre, arrivant à Taxila, ait trouvé un certain nombre d'ascètes qui se livraient à ce type de spéculation philosophique et qui vivaient selon les principes de ce qu'on appelle les ashramas, les états de la vie, c'est-à-dire qui se trouvaient soit qui étaient des renonçants. Les textes grecs ne sont pas très clairs, mais c'est l'interprétation la plus simple. Ce que l'on voit, c'est d'abord que, bien que le Gandhara apparaissent dans le Mahabharata, il y a même une des épouses qui s'appelle Gandhari. Très rapidement, le Gandhara et le Punjab ont été considérés comme des lieux impurs pour les bons Indiens. Et il est vrai qu'avec toutes les populations qui s'y étaient mêlées, ce n'était pas un lieu de pureté extrême. Et ce que l'on constate, c'est une présence du shivaïsme assez importante qui se voit dans le nomastique. Il y a de nombreux noms de personnes, des gens qui s'appellent Shivadasa, par exemple, esclaves de Shiva, et des noms de montagnes qui sont anciens, par exemple, on a des traces du mot Hara. Apparemment, dans la grotte de Kashmir Smats, il y avait également des rites shivaïtes. Le shivaïsme est bien représenté, et vous verrez que c'est un shivaïsme un peu spécial. Le vishnouisme est également bien représenté, puisque nous avons dans la série des noms de la dynastie Dodi, nous avons des noms comme Vishnu Varman, celui qui protège Vishnu, et Achilas II, ce n'est plus le Gandhara, c'est la route qui mène vers Gilgit, mais les inscriptions sont en kharoshthi et manifestement émanent de gens qui n'étaient pas de la région. Or, nous avons Achillas II, aux environs de notre ère, hein, vers 50 de notre ère, des représentations de Krishna, des représentations de Rama et des représentations du frère de Krishna, Balarama. Si vous voulez savoir, c'est à peu près à cette époque-là que les premières statues de culte apparaissent à Mathura. Si cela vous intéresse, vous pouvez voir le livre très récent que Madame Charlotte Schmidt vient de publier à l'EFEO qui s'appelle Le Don de voir. On a donc des témoignages absolument assurés de noms en Shiva et en Vishnu et de noms en Indra aussi, Varman. Ces noms nous assurent du fait que ces divinités étaient connues, probablement qu'elles recevaient un culte, mais en même temps, on peut se demander comment il se fait que dans une région aussi bouddhiste, presque tous les noms personnels que nous avons, par exemple sur les sceaux ou sur les intailles, soient des noms hindous. Et on peut se poser aussi la question de savoir pourquoi ces noms hindous se retrouvent sur des intailles, par exemple, qui représentent des divinités grecques ou des divinités qu'on peut interpréter à la grecque comme Artémis ou qui peut être aussi interprétée comme Ardokshu. C'est parce que, encore une fois, on est dans une civilisation où il n'y a pas de coupure frontale entre les religions, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est qu'elles sont toutes polythéistes. Comme toutes admettent des dieux, des demi-dieux, des personnages surnaturels, il ne s'agit pas de nier les dieux des autres, il s'agit de se les incorporer. C'est ce que notre collègue Paul Acker appelait l'inclusivisme, et l'un des exemples les plus clairs, c'est que quelques siècles plus tard, le Bouddha deviendra un avatar de Vishnu. Dans le bouddhisme ancien, les dieux hindous deviennent des serviteurs du Bouddha. Dans les reliefs gandhariens, vous avez des dizaines de reliefs qui vous montrent Brahma et Indra rendant hommage au Bouddha ou le protégeant, et de même toute une série d'êtres, de ce qu'on pourrait appeler des demi-dieux, des nagas, c'est-à-dire des divinités souterraines, ou alors des gandharvas, des apsaras, qui sont des musiciens et des danseuses du ciel, ou alors le garde du corps du Bouddha, Vajrapani. Tout ceci, ce sont des divinités hindoues que le bouddhisme a mis à son service. Et l'on sait qu'à l'entrée de chaque monastère, en tout cas au 5e, 6e siècle, mais il y a des raisons de penser que ce soit plus ancien, lorsqu'on entrait dans un monastère, sur la droite, il y avait une image de Bhairava, c'est-à-dire un des aspects de Shiva, qui était là pour, un des aspects terribles de Shiva, qui était là pour protéger le monastère. Il est probable, bien que on n'en ait pas de preuves certaines, que les Grecs ont également assimilé les dieux indiens à des dieux grecs. Beaucoup de mes collègues considèrent par exemple que le Zeus radié, qui se trouve au revers de monnaie grecque, est en fait une représentation de Mitra. Son nom n'est pas inscrit sur la monnaie, donc n'importe qui peut lui donner le nom qu'il veut. Et comme c'est un dieu aux foudres, après tout, peut-être qu'en Inde, on le prenait pour Indra. Mais les assimilations se font surtout sur Mitra. Elles se font aussi probablement sur une divinité iranienne, qui est Ardokhsho, qui est assimilée sur les monnaies, certainement à Shri. Alors, on a par ailleurs trouvé, en contexte bouddhique, c'est-à-dire dans des fouilles de monastères, des petites statuettes de Shiva et de la divinité féminine Shri. Il y a donc, et ce n'est pas étonnant, une interaction complète entre les hindous et les bouddhistes. Les bouddhistes, après tout, sont sortis des rangs de l'hindouisme et l'ont, comme les bouddhistes eux-mêmes n'ont pas de rite personnel, c'est-à-dire de rite à la naissance, de rite à la mort, ils n'organisent pas les mariages, ces rituels étaient faits par des prêtres hindous. Et en particulier, ce sont les prêtres hindous qui donnaient les noms. Et c'est pour cela, sans doute, que l'on trouve tellement de noms hindous sur les sceaux, alors que nous avons l'impression, peut-être fausse, que le Gandhara était à 95% bouddhiste. Mais le problème qui se pose, c'est que les dieux hindous ne sont... du bouddhisme ne sont pas tout à fait ceux des Indiens, enfin, je veux dire des hindous de bonne obédience. Il y a une trentaine d'années, j'ai publié l'inscription de Senavarma, qui a été republiée depuis par mes collègues Salomon et Inhuber, qui est la plus longue inscription Kharoshthi à ce jour connue, et qui relate la redédication d'un stupa par Senavarma, roi d'Odi. On ne sait pas très bien où est Odi. D'après la consonance du nom, on considère que Odi, ça va avec Udiyana, et que c'est donc dans la région du Swat, qui est juste au contact du Gandhara. Mais c'est une inscription qui date des années 30 de notre ère, qui nous apprend beaucoup de choses, je reviendrai tout à l'heure, et qui, comme là-dessus, et qui, comme toutes ces inscriptions bouddhistes, comporte deux parties. D'une part, la dédication du stupa et la remise en place des reliques, qui sont un acte pieux, qui rapporte des mérites, et qui vont valoir à M. Senavarma qui l'a fait, une bonne renaissance. Mais ses mérites, comme il est bouddhiste et qu'il n'est pas égoïste, il les partage avec toute une série de gens. Alors il les partage d'abord avec les vivants, évidemment, comme son frère et comme ses fils, avec son arrière-grand-père, qui est bien entendu décédé. Il y a eu toute une discussion sur ce qu'on appelle le transfert des mérites, que l'on a pris longtemps pour une possibilité exclusive du Mahayana et qui en fait se trouve dans toutes les religions bouddhistes, de toutes les sectes. Et après, ces membres de la famille, il partage ses mérites avec tous ses suivants, disons ses gardes du corps et ses ministres, avec Brahma Sahampati, Chakra, le roi des dieux, les quatre grands rois de l'espace, les 28 Yakshas et Arithi. Et il dit, en bref, du fond des enfers jusqu'au sommet du ciel, tout ce qui est né, que qu'ils aient des pieds ou qu'ils n'en aient pas, ils partagent avec eux les mérites résultant de ce don. Il y a donc un certain nombre de dieux proprement indiens, proprement hindous, qui sont nommés. Sur ces dieux, il y en a qui sont des dieux folkloriques, si j'ose dire, des dieux que tout le monde peut honorer parce que tout le monde y croit, comme les quatre rois gardiens de l'espace ou les yakshas, ou Arithi qui protège les gamins de la variole et dont la statue se trouvait dans tous les monastères bouddhiques lors de la très belle exposition d'art du Gandhara qui a eu lieu à Guimet il y a quelque temps. Vous aviez de très belles statues d'Arithi qui avaient été trouvées lors de fouilles de monastères bouddhiques. Ça va. Mais Brahma, Sahampati et Chakra, qui est Indra, ce sont les grands dieux de l'hindouisme. À cette remarque près, et qui, à ma connaissance, n'est pas expliquée, ou en tout cas dont je ne connais pas l'explication, c'est que Brahma n'est jamais appelé Sahampati dans les textes hindous, et que Indra y est très rarement appelé Chakra, qui est le puissant. Pour ce qui est de ces deux dieux, les bouddhistes ont un vocabulaire tout à fait spécial, Brahma et Chakra. Chakra, c'est un adjectif qui signifie puissant. Et ce qui est très curieux, c'est que alors que nous avons pas mal de noms qui commencent en Indra, il n'y a pas de nom qui commence en Brahma, mais beaucoup de noms qui commencent en Indra, il n'y a pas un seul nom propre qui commence en Chakra. Les dieux hindous des bouddhistes ne sont pas les dieux hindous des hindous. Alors, l'explication, elle tient peut-être au fait que ces dieux apparaissent dès les plus anciens textes et que dans le Magadha du 4e siècle ou du 3e siècle où prêchait le Bouddha, ces dieux portaient peut-être ces noms-là et qu'on les a gardés. Mais il est tout à fait clair qu'une inscription qui se réfère à la fondation d'un monument typiquement bouddhiste, à l'établissement de reliques du Bouddha dans un lieu où il n'y en avait pas, et qui comporte quatre ou cinq lignes qui donnent toutes les épithètes du Bouddha, au même moment, le rédacteur de l'inscription, qui est très probablement un moine, n'a aucune gêne à honorer les dieux des hindous. Ces dieux sont simplement des dieux subordonnés au Bouddha et des dieux qu'on peut honorer, mais qui ne vous rapportent rien. Mais enfin, il vaut quand même mieux prendre ces précautions. C'est une bonne assurance, donc on les honore. Et ce n'est pas parce que l'on est devenu bouddhiste que l'on partage toutes les spéculations philosophiques du bouddhisme et que l'on croit qu'il n'y a pas de démons mangeurs d'hommes. D'ailleurs, dans les Jataka, des démons mangeurs d'hommes, il y en a beaucoup. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Et qu'on ne croit pas qu'il n'y ait de dieux hindous, d'abord parce qu'on les voit dans son village, et puis ensuite parce qu'ils apparaissent dans les textes bouddhiques, parce qu'ils apparaissent sur les reliefs bouddhiques. Donc, vous voyez que la distinction simpliste entre hindou et bouddhiste est une distinction qui ne va pas. Sur les monnaies Kushan, malgré la proclamation de Kanishka en l'honneur de tous les dieux qui sont à la source de son pouvoir, il y a toute une série de dieux et aucun n'a véritablement la préséance. La religion de Kanishka lui est personnelle, mais en tant que souverain, il protège tous ses sujets, qu'ils soient bouddhistes, hindous ou mazdéens. Cela se voit sur ses monnaies et ça se voit sur la légende qui a fait de Kanishka, malgré lui, le protecteur du bouddhisme, alors que l'on sait maintenant, depuis l'inscription de Surkotal et maintenant l'inscription de Rabatak, que personnellement il n'était pas bouddhiste mais il était mazdéen. Il y a des problèmes de ce genre-là, Mais si l'on regarde le nomastique et la statistique, on a quand même maintenant à peu près 200 noms propres. Le nom théophore qui prédomine, c'est Shiva. Vishnu n'apparaît quasiment jamais. Il apparaît sur une monnaie kushane. Mais par contre, il y a eu plusieurs rois kushans qui sont appelés Vasudeva, c'est-à-dire disciples de Krishna. L'une des autres divinités très représentées avec Shiva sur les monnaies kushanes, c'est une divinité qui s'appelle Ardoksho. On sait, parce que sur les monnaies kushanes, heureusement, les noms figurent à côté des représentations, et qui probablement, en contexte indien, a été considérée comme étant Shri, puisque c'est la même image qui sera reprise par les Guptas pour représenter Shri. Or, Ardoksho n'apparaît jamais dans l'onomastique. On n'a pas de statue d'Ardoksho. Par contre, on a une statue de Shri qui était en contexte bouddhiste. Comme vous le voyez, les noms propres sont une des sources importantes. Ces noms propres, ils apparaissent dans les inscriptions, évidemment, mais ils apparaissent aussi sur les sceaux. Chaque personne importante portait à l'annulaire une entaille qui lui permettait de graver de signer sur un matériel mou ou sur de l'encre. Ces entailles sont essentiellement à sujet grec, mais les noms sont essentiellement hindous. Or, ces noms sont importants parce que l'on sait que dans les familles indiennes, donner le nom est une cérémonie importante qui se fait par un brahman, le chapelain de la famille, et probablement après consultation de l'astrologue. Quand on regarde dans le grand ouvrage qui a rassemblé à peu près toutes les données des Dharma Shastras sur les rites hindous, l'ouvrage de Kane sur le Dharma Shastra, on s'aperçoit que les règles varient d'un texte à l'autre. Il n'y a pas de règle fixe sur la façon de donner le nom, la façon de composer le nom. Mais toujours, il y a une cérémonie, et toujours cette cérémonie est faite par des brahmanes. On peut donc donner des noms hindous à des familles bouddhistes, puisque les bouddhistes ne s'occupent pas de ce problème. Et on peut également garder les noms anciens lorsqu'on est hindou. L'exemple le plus frappant est celui du véritable fondateur de la dynastie Kushan, celui qui a conquis l'Inde et celui qui a rénové le monnayage, Vimakathfizès. C'est de Vimakathfizès que Kanishka tient son pouvoir. Vimakathfizès a toujours gardé ce nom-là, qui est un nom iranien, qui est le nom de famille traditionnel. Sur ces monnaies, seul Shiva est représenté avec le taureau Nandin, et dans la légende, il tient à montrer qu'il a pour divinité le maître du monde, c'est-à-dire Shiva. Donc vous voyez que l'analyse des noms, elle est elle est très très utile, et en même temps elle est très délicate. Parce que nous qui vivons dans un univers où les religions monothéistes sont dominantes et où elles s'opposent violemment, avec des guerres de religions ultra sanglantes qu'heureusement l'Inde ne semble pas avoir connues, nous avons l'impression que les religions s'opposent. Eh bien, dans le Gandhara des environs de notre ère, elles ne s'opposent absolument pas. Elles vivent en coexistence. On peut adorer tous les dieux. Simplement, pour reprendre une distinction indienne contemporaine, il y a des dieux qu'on préfère, selon les familles. C'est-à-dire que chaque famille à ce que les Indiens appellent Sakula Devata, la divinité protectrice de la famille, qui est adorée maintenant dans un temple, mais en tout cas dans les maisons, dans un endroit tout à fait spécial. Et chaque individu a une divinité particulière pour laquelle il a une affinité particulière et qu'il adore, qui est son Ishta Devata. Mais ça ne l'empêche pas d'aller au temple. À l'époque, il n'y en avait pas, mais maintenant, il y en a, au temple d'autres dieux pour certaines cérémonies. Et si un moine bouddhiste ou même un moine chrétien arrive et mendie à sa porte, on lui donnera à manger. Il n'y a pas, dans ces siècles, d'opposition entre religions. Il n'y a pas de fondamentalistes qui veulent vivre purement, sauf évidemment les brahmanes, qui, eux, leur raison d'être, et d'être pur et d'être à part. Alors, les brahmanes qui se convertissent aux bouddhistes ne sont plus brahmanes. Mais toutes les autres couches de la population ne font guère de différence entre les religions. Et je vous le montrerai la semaine prochaine en analysant ces trois images. Ah. Ça, il a été trop long. C'est la sécurité. Comme je n'ai pas utilisé les images, voilà. C'est ces trois images qui sont les arbres dynastiques de la dynastie d'Odi et de la dynastie d'Apracha. Et vous verrez à quel point les religions dans une famille dite royale, en fait une famille de petits chefs, se mêlent, en tout cas au niveau des noms. Et ceci montre que tous ces gens que nous connaissons parce qu'ils ont fondé des sanctuaires bouddhiques et qu'ils en sont très fiers, et qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ça, eh bien tous ces gens avaient autour d'eux des brahmanes. Et ils avaient parfois même des prêtres grecs. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. Et je vous remercie pour aujourd'hui.